Bonjour à tous et bienvenue dans De Bouche à Oreille, l'émission dans laquelle on parle des initiatives agricoles et citoyennes en Touraine, en partenariat avec Impact 37. Aujourd'hui, c'est le Biotope, producteur de légumes bio situé à Montlouis-sur-Loire, qui est à l'honneur dans cette émission. Nous serons en ligne tout à l'heure avec Fabien Chatté, qui est co-gérant du Biotope. Mais avant, nous sommes avec Julie Joyer d'Impact 37 par téléphone. Bonjour Julie.
Bonjour Audrey.
Alors ce n'est pas un hasard aujourd'hui si on parle du Biotope dans De Bouche à Oreille.
Alors en effet, on parle du Biotope parce qu'ils sont très liés au nouveau marché de Montlouis qui vient de voir le jour il y a 3 semaines. Donc c'est un marché qui a lieu le vendredi soir de 16h à 19h place François Mitterrand. Et on y trouve des produits bio majoritairement et locaux. Voilà, donc c'est un lancement et ça fait plusieurs mois que la commune de Montlouis était en réflexion sur ce projet. L'association Impact 37 avait été sollicitée, on a participé au début des réflexions avec la mairie et puis donc aujourd'hui le projet a abouti et le marché cherche aussi encore des producteurs. Donc si les producteurs écoutent l'émission, il est encore temps de se signaler auprès de la mairie de Montlouis-sur-Loire.
Donc pour en revenir au Biotope, donc, hein, ce sont 3 associés qui produisent des légumes bio à Usseau à Montlouis-sur-Loire. Un mot justement sur cette exploitation.
Alors le Biotope, c'est une ferme qui est très ancienne et qui est assez emblématique dans le réseau. Donc aujourd'hui, en effet, il y a 3 associés et toute une équipe de salariés permanents et saisonniers parce que les maraîchers sont présents sur plusieurs marchés. Donc il faut pouvoir aussi assurer à la fois la production et puis le commerce au moment du marché. Et puis c'est un peu emblématique dans les environs parce que justement le fait de recruter beaucoup de saisonniers permet à des porteurs de projets, par exemple en maraîchage, de se tester, de gagner en expérience et puis de s'installer ensuite. Donc c'est le cas par exemple d'Alexis Delorme, un rousier de Touraine, qui me disait il y a une petite dizaine de jours, voilà, ça lui avait donné sa chance après sa formation en maraîchage. Il a fait une saison complète au Biotope et puis donc c'est un bon complément quand on veut se lancer. Et puis c'est aussi une ferme qui est assez connue dans le réseau agricole local parce que donc ceux qui ont fondé, ceux qui ont créé la ferme, le Biotope, qui à l'origine était à la ville aux dames et qui donc conserve encore ce site, il y a 2 sites de production. Et donc c'est Philippe Riffard et Christine qui ont créé dans les années 80 le Biotope. Et ils ont été très impliqués dès le début dans le développement de l'agriculture biologique dans le département. Donc ils ont participé à la création du GAPTO, qui est donc l'association, le groupement des agriculteurs bio et biodynamiques de Touraine. Et puis Philippe a été aussi très engagé dans la création du réseau Impact en 2008. Donc voilà, le Biotope est historiquement lié à Impact depuis très longtemps.
Alors justement, le Biotope fait partie du réseau Impact 37. Comment est-ce que vous les avez accompagnés?
Alors le réseau Impact accompagne beaucoup de collectivités, notamment de nos jours dans les projets alimentaires territoriaux. Et puis là, dans les années 2010, le Biotope avait besoin donc de s'agrandir, d'avoir un nouveau terrain de production et puis un bâtiment. Et donc c'est Impact qui a travaillé à la mise en lien avec la communauté de communes sur laquelle était Usseau, donc Montlouis, pour construire un bâtiment écologique. Donc il y a tout un travail qui est fait de tissage de liens entre les producteurs et en l'occurrence le Biotope et Impact 37.
Eh bien merci beaucoup Julie.
Merci Audrey.
On se retrouve en fin d'émission pour l'agenda. Nous sommes à présent en ligne avec Fabien Chatté. Bonjour Fabien, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors vous êtes associé, vous êtes co-gérant au sein du Biotope, production de légumes bio à Usseau à Montlouis-sur-Loire, et vous avez aidé la municipalité de Montlouis à lancer le nouveau marché de producteurs locaux et bio qui a lieu le vendredi après-midi. De quelle manière est-ce que vous êtes impliqué dans ce projet?
Alors en fait, ça a commencé lors d'un marché ponctuel qui s'est fait à l'automne à Montlouis. Le maire de Montlouis était sur ce marché et en discutant, il disait c'est quand même dommage qu'on n'ait pas un marché bio à Montlouis. Et il y avait aussi une demande de la part des citoyens de Montlouis pour avoir un marché à des horaires un petit peu différents de ceux du marché habituel de Montlouis qui tient le jeudi matin, donc qui n'est pas pratique pour les actifs. Donc, de fil en aiguille, nous, on avait déjà un marché sur le créneau du vendredi soir. Ça faisait quelques années qu'on travaillait à la gare, avec la SNCF, à la gare de Tours. On faisait un marché tous les vendredis. Et ce marché, avec la crise du Covid, avec les alertes attentats, avec également les plans Vigipirate, c'était de plus en plus compliqué pour nous de travailler sereinement sur ce marché. Donc, on a repris contact avec la mairie de Mont-Louis en leur proposant effectivement de monter un marché le vendredi après-midi sur Mont-Louis. L'idée quand même de ce marché, c'est initialement, le maire de Mont-Louis souhaitait que ce soit un marché 100% bio, qui nous plaisait bien, mais rapidement on s'est rendu compte que ça allait être compliqué de mobiliser que des producteurs bio et locaux, parce que finalement on n'est pas si nombreux que ça malheureusement. Donc la décision a été prise d'élargir à des producteurs qui sont non bio mais qui restent locaux.
Donc le marché de Mont-Louis a démarré il y a 3 semaines maintenant. Donc sur ce marché, nous sommes les seuls producteurs bio pour l'instant, mais on n'espère pas d'être rejoints par des éleveurs, notamment pour proposer de la viande bio, et puis un petit peu plus tard dans la saison, un boulanger qui viendra vendre des pains bio.
D'accord, alors combien de producteurs en tout est-ce que ça représente ?
Alors actuellement, producteurs et artisans, on est 6 sur le marché.
D'accord, et est-ce qu'il y a du monde ?
Oui, alors on a été surpris par l'affluence du premier marché. Nous, on s'est fait un petit peu déborder, on n'avait pas prévu de venir avec autant de marchandises et autant de vendeurs. C'est un marché qui fonctionne très bien, ouais.
Et donc, vous ne faites plus celui de Tourin à la gare ?
Non, on a arrêté le marché de la gare. Alors, on avait discuté avec la SNCF pour arrêter ce marché. Et peut-être que Biolinette, donc une épicerie bio de Mont-Louis-sur-Loire, devrait prendre notre relais sur ce marché. On tenait à ce que la commercialisation de produits bio et locaux continue à se faire en gare de Tours. Et donc Biolinette, Pauline et Quentin seraient intéressés pour reprendre le flambeau.
D'accord. Alors pour la petite histoire, pour en revenir au biotope, le biotope existe depuis 1981. C'est Philippe et Christine Riffard qui se sont installés en agriculture biologique à la Riche, sur les bords du Cher pour commencer. Et au fil du temps, les choses ont évolué. Ils se sont installés ensuite à la ville aux Dames. Frédéric Cook les a rejoints. Puis vous êtes arrivé en 2016. Vous avez changé de métier, je crois, pour rejoindre l'aventure.
Tout à fait. Juste avant de parler de mon cas, il y a aussi un dernier associé qui est arrivé cette année, en 2020, qui s'appelle Yann Gouin.
Donc aujourd'hui, vous êtes 3 associés, c'est ça ?
3 associés, tout à fait. Philippe et Christine sont partis en retraite en décembre 2019. Donc pour revenir sur mon arrivée, effectivement, moi c'est une reconversion professionnelle. Initialement, je travaillais dans l'industrie en région parisienne, responsable brevet. Donc je m'occupais des brevets, d'un portefeuille brevet pour une société. Et c'était un métier qui était très rémunérateur, certes, mais qui m'apportait pas satisfaction personnelle. Et ma femme ayant été mutée en Touraine, c'était l'occasion pour moi de changer de métier et puis de trouver quelque chose qui était plus en adéquation avec mes valeurs. Et je me suis orienté vers le maraîchage. Et le biotope, c'est la première ferme sur laquelle j'ai fait un stage pour valider quand même que mes aspirations allaient être comblées par le métier de maraîcher. Et Philippe et Christine et Fred m'ont accueilli sur la ferme et ça s'est très bien passé. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait un BPREA, c'est un brevet de responsable d'exploitation agricole qui donne la capacité agricole et qui permet de s'installer. Et je savais que Philippe et Christine avaient parti en retraite. Je savais aussi que Frédéric cherchait un associé parce qu'il voulait pas rester seul sur la ferme. Et c'est une rencontre qui s'est faite après un an de stage de parrainage. C'est un dispositif qui permet d'avoir les fonctions d'un associé sans avoir encore racheté les parts. Ça permet d'essayer l'association. Et donc, au bout d'un an de stage parrainage, j'ai racheté les parts de l'entreprise et je suis devenu associé pleinement au biotope.
Alors aujourd'hui, est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites ? Vous ne regrettez pas ?
Non, il n'y a aucun regret. Non. C'est, alors tous les jours ne sont bien évidemment pas égaux. Il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Mais de manière globale, c'est un changement réussi. Effectivement, je suis plus en adéquation avec mes valeurs. C'est un métier qui me prend beaucoup plus de temps que celui que j'avais avant. Là, c'est des volumes horaires qui sont relativement importants. Et c'est un métier qui est très prenant. Mais malgré tout, ça... On est heureux à la fin de sa journée.
Alors comment fonctionne justement le biotope ? Parce que j'imagine que vous êtes à la fois au champ et au bureau.
Oui, alors malheureusement je suis plus au bureau que ce que je ne souhaiterais l'être. Ça c'est un petit peu le travers, un petit, de l'entreprise, enfin de l'entreprise, de toute entreprise en fait. Mmh. Initialement, mon projet, c'était bien évidemment de faire que des champs. Et rapidement, là, le biotope, on a quand même quelques salariés. On a 6 salariés permanents, ce qui représente 5 équivalents temps plein, puisqu'on a 2 personnes qui sont à temps partiel. Et en ce moment, on a 4 saisonniers.
D'accord.
Enfin, 3 saisonniers, bientôt 4. Donc ça fait pas mal de monde à gérer.
Oui.
Ça fait donc pas mal aussi d'administratifs à faire. Donc il y a effectivement un temps de bureau qui est non négligeable. Et puis au-delà de ça, on commercialise de manière assez variée. On fait des marchés, on fait des paniers. Et on fait également de la vente à des magasins spécialisés comme Biocop ou les Cop Nature, mm-hmm. Biolinette. Et donc ça aussi, ça prend du temps en termes d'organisation pour faire les propositions de légumes qu'on va pouvoir vendre au magasin, pour faire la planification des paniers, pour gérer les paniers, etc.
Oui, donc il y a différentes facettes hein, en fait hein, au sein de votre métier.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facettes. Ça dépend beaucoup de la taille de l'entreprise aussi, parce que quand on est une petite structure, par exemple, qui ne fait que des paniers, bah, le temps administratif finalement est réduit. Quoi, là, le fait d'avoir des salariés et de faire un petit peu plus de gestion, ça prend effectivement beaucoup plus de temps. Mais il y a une facette de gérant d'entreprise qui est effectivement non négligeable.
Alors, combien d'hectares avez-vous à Mont-Louis ? Je crois que vous avez principalement d'ailleurs toutes vos terres qui sont à Usseau, à Mont-Louis-sur-Loire.
Alors, effectivement, initialement, on avait 2 fermes. Une ferme à La Ville aux Dames, qui faisait à l'époque 3,7 hectares, et une à Mont-Louis, qui faisait 2,5 hectares. L'an dernier, on a transféré le principal de l'activité sur Mont-Louis, à Usseau. Donc là, maintenant, on a 3 hectares à Mont-Louis. On a récupéré 5000 m² de plus. Et on a quand même pu conserver le site de la Ville aux Dames.
D'accord.
Que l'on pensait pas pouvoir conserver initialement. On l'a conservé, mais avec un petit peu moins de surface que ce qu'on avait avant. On doit avoir 2 hectares maintenant à la Ville aux Dames.
Ok. Alors, que cultivez-vous ? Combien de variétés de légumes est-ce que vous cultivez sur l'année à peu près ?
Alors, sur l'année, on a une quarantaine, voire un peu plus de variétés de légumes. On fait quasiment tous les légumes, à l'exception de quelques légumes, parce qu'on a des collègues qui le font très bien, notamment à Chambray. Voilà, je pense à la famille Montmarchais à Chambray ou à Guillaume Geffard à Saint-Pierre-des-Corps. Il y a quelques légumes que l'on ne fait pas, qui sont faits sur leur ferme. Et avec lesquels, on leur rachète des légumes, ils nous en rachètent et on s'arrange un petit peu comme ça.
D'accord.
Mais sinon, on fait quand même une quarantaine de légumes sur l'année, donc c'est vraiment diversifié en termes
ouais.
de
rachat. Oui, ouais, ce qui est pas mal. Et est-ce que vous cultivez de vieilles variétés de légumes ?
Alors, relativement peu. Mm-hmm. Nous, on fait relativement peu de vieilles variétés. On est plutôt sur des variétés plus récentes. Alors, en tomates, on va faire de la cœur de bœuf, des variétés anciennes, des choses comme ça. Mais sinon, sur les légumes... En termes de variété, on est plutôt sur des variétés récentes pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que on cherche des variétés quand même qui sont relativement résistantes aux parasites. Parce
ouais.
qu'en bio, on n'a pas de moyens de traitement, ou très peu, pas de moyens curatifs en tout cas, c'est plutôt du préventif. Donc une fois que la maladie est là, c'est très compliqué de s'en débarrasser. Donc ça, c'est une première chose. Donc les variétés dites de population, donc les plus anciennes, sont des fois bien armées, mais des fois beaucoup moins bien armées pour résister à ces maladies. Donc c'est une des premières raisons. Et la deuxième raison, c'est que malgré tout, même si on a des consommateurs qui sont engagés, le fait d'avoir un légume qui a un aspect attrayant reste important.
Oui. D'accord.
Et ça, c'est plus compliqué aussi avec des variétés anciennes. Mmh. Cependant, il y a quand même des légumes pour lesquels, je pense par exemple à la roquette, il existe une variété dite sauvage ou une variété qui est une variété qui existe réellement dans la nature, ou une variété dite cultivée qui est une variété plus récente. La différence de goût est telle entre les deux variétés qu'on reste sur la sauvage, même si elle va être moins productive et même si elle va être peut-être moins bien à présenter. Quoi.
Mmh. Alors, vous êtes en bio, hein,
oui.
C'est fondamental pour vous ?
Ah oui, tout à fait, oui. Alors moi, ça faisait partie de mon projet de reconversion. Je m'imaginais pas aller vers de l'agriculture conventionnelle.
Mmh.
Et puis, c'est vraiment ancré, chevillé au corps de l'entreprise, vraiment dans la culture d'entreprise. Donc, Philippe et Christine, vous le disiez, ont créé l'entreprise en 81.
Oui.
Donc, ils ont été certifiés en bio de mémoire en 86. C'était vraiment les pionniers à l'époque. Il fallait vraiment y croire pour le faire.
Oui.
Et Philippe et Christine nous l'ont bien transmis, même si on était déjà convaincus avec Frédéric. c'est une certitude. Et puis aujourd'hui, ça nous paraît une évidence que on peut plus aller vers une agriculture conventionnelle pour différentes raisons, pour des raisons déjà environnementales.
Bien sûr, ouais.
Des raisons sanitaires et sanitaires en termes de même pour les agriculteurs eux-mêmes. Quoi.
Bien sûr. Oui, donc derrière tout ça, vous vous engagez à respecter la nature, mais qu'est-ce que ça implique pour vous donc de faire du bio? Il y a la rotation des cultures, il y a plein de choses qui rentrent en jeu.
Alors bien évidemment, il y a la rotation des cultures, comme vous dites. Le bio, c'est un cahier des charges qui était initialement établi dans chaque pays. Maintenant, ça a été uniformisé en Europe. Et donc, la première chose, c'est que toute matière de synthèse est proscrite. C'est-à-dire, on ne pourra pas avoir des engrais de synthèse issus de la pétrochimie, par exemple, des molécules de synthèse pour traiter les légumes en cas de ravageur ou de maladie. Mm-hmm. Donc, tout ce qui est synthétique est interdit. La deuxième chose, c'est que on va avoir une certaine éthique dans le sens où souvent une phrase qui dit quand on apporte des amendements dans le sol, c'est pour nourrir le sol et pas pour nourrir les légumes. Donc on commence par nourrir la terre. La terre étant suffisamment bien nourrie, elle nourrira les légumes ensuite. Ça, ça fait partie des fondamentaux. Et puis pour les rotations des cultures, comme je disais tout à l'heure, en fait, on a assez peu de moyens pour lutter une fois qu'une maladie est installée ou qu'un ravageur est là. Donc, l'objectif, c'est d'éviter qu'ils s'installent. Oui. Pour éviter qu'ils s'installent, c'est créer des ruptures parce qu'on sait que, je vais prendre un exemple, je ne sais pas, le doryphore, par exemple, mm-hmm. un petit coléoptère qui s'attaque à la pomme de terre, oui. il dort à l'endroit où il se met en hibernation, à l'endroit où on a fait le champ de pomme de terre. Si l'année suivante, on lui remet le champ de pomme de terre au même endroit, il va se réveiller, il va être impeccable, tout sera
à
disposition, il va pouvoir se reproduire et ainsi de suite. Pareil pour des champignons comme le mildiou ou des choses comme ça. Mm-hmm.
Alors vous avez mis également en place un système de panier pour pouvoir vendre vos légumes. Est-ce que ça fonctionne à la semaine? Est-ce qu'il y a un abonnement à l'année? Est-ce que vous avez beaucoup d'abonnés? Dites-nous un petit peu plus sur ce système.
Alors effectivement, c'est un système de panier qu'on a mis en place il y a quelques années maintenant. Ça doit dater des années 2000. Mm-hmm. Et c'est des abonnements qui sont trimestriels, sachant qu'avant de s'engager, les clients peuvent évidemment faire un essai de 2 semaines.
Ok.
Et donc chaque semaine, on prépare un panier. La semaine précédente, on envoie le programme du panier. Donc chaque client sait ce qu'il aura dans son panier la semaine suivante. On lui offre la possibilité d'échanger un légume si vraiment il a un légume qu'il n'aime pas.
Okay.
Il peut nous demander d'échanger ce légume. Puis en cas d'absence, soit c'est une absence prévue au début de l'abonnement, dans ce cas-là, on prépare bien évidemment pas son panier. Soit il n'avait pas prévu, mais il nous prévient la semaine d'avant. Et on lui déduira de son abonnement le panier qu'il a annulé. Donc c'est une formule qui est assez souple
pour
les paniers.
Pour vous, c'était une façon d'assurer une certaine sécurité financière de mettre en place ce système de panier?
Alors, initialement, ça a été mis en place que Philippe et Christine travaillaient avec des grossistes.
D'accord.
Par le passé. Et suite à plusieurs mésaventures qui leur arrivaient avec les grossistes, ils ont décidé d'arrêter les grossistes et de se tourner vers ce système de panier, effectivement, pour sécuriser un petit peu plus économiquement l'entreprise.
Alors justement, en ce moment, qu'est-ce qu'on peut trouver dans vos paniers? Quel type de légumes est-ce que vous cultivez en ce moment?
Alors en ce moment, on a déjà les légumes primeurs avec tout ce qui est radis bottes, carottes bottes, navets bottes, mm-hmm. les salades aussi. Et on commence à avoir des légumes un peu plus d'été. Là, on a eu les premières courgettes qu'on a eues il y a 2 semaines maintenant. Donc il y en a dans les paniers cette semaine.
D'accord.
On a aussi les toutes premières pommes de terre primeurs mm-hmm. qui ont fait leur apparition dans les paniers. Et puis des choux de printemps, donc c'est un peu moins exotique, hein, mais on est en Touraine, donc ça reste sympa. C'est des choux qui sont très tendres, qui peuvent être consommés crus mm-hmm. ou braisés très rapidement. Voilà, c'est un petit peu les nouveautés du moment. Et puis pour les tomates, ce qui est généralement le légume le plus attendu, il faudra attendre début juin.
D'accord, ok. Bon. Alors, on peut également venir chercher aussi vos produits directement chez vous, puisque vous avez mis en place un marché sur votre exploitation. C'était logique de proposer ça?
Oui, alors c'est un projet qui nous tenait à cœur à Frédéric et moi, parce que quand la ferme a été installée à Usseau en 2013, ça a été inauguré. Rapidement, il y a eu une demande à Mont-Louis, alors quand est-ce qu'on pourra acheter vos légumes, etc. Et puis pendant plusieurs années, on était dans l'incapacité de mettre en place quelque chose. L'an dernier, en transférant l'activité principale à Usseau, on s'est dit que c'était l'occasion vraiment de créer un marché à la ferme. Et donc on avait pour objectif de faire ça courant mai ou juin en 2020. Et la crise du Covid a précipité les choses parce qu'on s'est retrouvé avec des marchés fermés, des marchés sur lesquels on commercialisait habituellement à Tours. Et donc on s'est dit, on se lance, On fait un marché à la ferme, voilà, au débaudé. Et ça, c'est, ça a connu un fort engouement pendant toute la période. Et bon, c'est revenu à des niveaux plus normaux, on va dire. Mais ça reste un marché très sympa. Mmh. Et surtout, on a réussi à faire venir d'autres collègues producteurs sur ce marché.
D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver, par exemple ?
Alors, de manière récurrente, tous les mercredis, on a Martin Desplat, qui est paysan boulanger à Dolulsec, donc qui vient vendre ses pains, qui fait avec ses propres farines. Il est en bio. Tout est bio sur le marché, pour le coup.
D'accord.
À Usso. On a Adeline, qui est le traiteur. Elle fait des plats végétariens à base de légumes bio.
Ok.
Donc ça, c'est tous les mercredis. Il y a également Thierry Bouvet, qui est pêcheur de Loire à Mont-Louis, qui vient vendre ses poissons, terrines et poissons fumés tous les mercredis également. Une semaine sur deux, on a Claire Proust, qui est éleveuse de chèvres. Mm-hmm. Et donc, qui vient vendre ses fromages, yaourts, faisselles.
Ok.
Et une fois par mois, Anthony Benet, qui lui est éleveur de volailles en bio et qui vient vendre ses pintades, poulets, rillettes de poulet.
D'accord, donc c'est assez complémentaire quand même.
Oui, oui, on est content d'avoir réussi à avoir un petit peu tout le panel. Ouais. Mm-hmm. On a eu du mal à trouver un éleveur qui puisse venir vendre du fromage parce qu'ils sont assez demandés. Mais on est content, on a réussi.
Alors du coup, c'est quoi les horaires de ce marché ? C'est le mercredi après-midi ?
Oui, mercredi après-midi de 15h à 19h.
D'accord, ok, donc c'est noté. Et est-ce que vous avez d'autres lieux de vente ou d'autres endroits où on peut vous trouver sur des marchés à Tours peut-être ?
Alors à Tours, tous les mercredis matins, au marché des Halles.
Ok.
Et le samedi matin, au marché des Fontaines à Tours, donc quartier des Fontaines, sur les rives du Cher.
Est-ce que vous avez des projets en cours sur l'exploitation ou des futurs projets ?
Alors des projets, on en a tout le temps, oui. Des projets de commercialisation, là on pense pas étendre plus. Là, le dernier projet qu'on avait et qui vient de se lancer, c'est le marché de Mont-Louis.
Ouais.
Donc ça, c'était le dernier projet. Après, on a des projets d'aménagement, notamment plutôt de rénovation, parce qu'on a une serre sur le site de la Ville aux Dames, une serre qui est en verre.
Okay.
C'est un très bel outil, mais qui est très vieux aussi, qui commence à s'abîmer. Donc là, on a un projet de rénovation de cette serre. Avec, on va essayer de la moderniser et surtout de la faire vivre encore un peu parce que voilà, c'est un outil qu'aujourd'hui on serait bien incapable de se payer puisque c'est devenu hors de prix, une serre en verre qu'on aimerait conserver.
Alors, une dernière chose avant de se quitter, vous recrutez aussi, je crois, chaque été des saisonniers. Et là, l'idée, c'est aussi un petit peu d'accompagner peut-être des gens qui seraient intéressés pour devenir producteurs de légumes bio.
Alors effectivement, dans les saisonniers qu'on recrute chaque année, on a des gens qui ont des projets d'installation derrière. Mmh. Donc c'est pas notre métier de former les gens. Hein.
Oui.
Ça, l'objectif c'est quand même qu'ils soient saisonniers chez nous et qu'ils participent au travail de l'entreprise. Ils sont pas là dans le cadre d'une formation. Mmh. Pour autant, c'est une expérience qui peut être enrichissante pour eux, avec un modèle qui sera différent d'autres exploitations qu'on les pousse à aller voir aussi, hein, des exploitations plus petites qui auront des fonctionnements très différents. Mais l'avantage qu'on peut avoir sur notre ferme, c'est qu'on a une ancienneté assez importante, donc avec une technicité que Philippe et Christine ont développée au cours de 30 ans de maraîchage bio, qu'on peut transmettre aussi.
Ça, c'est important pour vous de continuer à transmettre, parce qu'on a compris que Philippe et Christine Riffard, vous avez transmis pas mal de choses. Du coup, vous êtes encore dans ces choses-là. En fait, vous souhaitez, vous aussi, pouvoir transmettre un peu le goût de tout ça ?
Nous, on est très, très motivés par le développement de la bio en général.
Mm-mm.
Donc nous, si on peut transmettre en maraîchage, on le fait avec plaisir, mais ce qu'on veut, c'est que ça ait fait, mais effectivement, et qu'il y ait des projets qui fleurissent un petit peu partout. On voit que la demande est là.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de difficulté à commercialiser. Donc, il y a de la place encore pour des jeunes qui s'installent.
Oui, oui. Vous trouvez qu'il y en a pas assez, peut-être en Touraine, là, en tout cas, autour de Mont-Louis, Amboise?
Alors, en maraîchage, il y en a de plus en plus quand même. Mm-hmm. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Là, il y a, par exemple, Guillaume Geffard qui s'est installé il n'y a pas très longtemps à Saint-Pierre-des-Corps, dans la ceinture, il commence à y en avoir pas mal. Ce qui manque peut-être à Mont-Louis, sur le département de l'Indre-et-Loire en général, c'est des structures qui acceptent d'être un petit peu plus grosses, on va dire.
Mm.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup de toutes petites structures en Indre-et-Loire. Et le travers de ces petites structures, c'est qu'elles sont généralement pas capables ou pas intéressées, plutôt, c'est plutôt un manque de goût pour faire ça, c'est de fournir par exemple des magasins comme les Biocop, les Cop Nature, etc. Et donc c'est un peu problématique pour fournir ces magasins. voilà, prendre plaisir à ce qu'on fait. Donc c'est important aussi que les maraîchers qui s'installent fassent ce qui leur plaise. Mmh. C'est pas toujours plaisant de récolter, je sais pas, 100 kilos de poireaux pour un magasin. Voilà, y passer la journée à faire que ça, c'est pas toujours plaisant, j'entends bien.
Oui, oui, c'est sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Fabien Chatté.
Merci à vous.
Donc, je rappelle que vous êtes co-gérant du biotope à Usseau, à Mont-Louis-sur-Loire. Je rappelle également que vous proposez un marché au biotope le mercredi après-midi et que vous êtes également présent sur le nouveau marché de Mont-Louis-sur-Loire le vendredi après-midi. Et avant de terminer cette émission, on retrouve tout de suite Julie pour l'agenda d'Impact 37.
Donc à l'agenda de ce mois de mai, je vous propose le Printemps Bio, c'est le réseau agricole Biocentre qui a recensé des événements se tenant dans toute la région, et notamment en Indre-et-Loire, dans des fermes, des domaines viticoles ou des magasins bio, entre le 21 mai et le 21 juin. Par exemple, tous les dimanches, à partir du 21 mai, vous pourrez visiter deux domaines viticoles dans le Lauchois, donc à Montrésor et Chemillé-sur-Indrois. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de Biocentre. Et autre événement que je recommande pour le mois de mai, c'est la Transhumance qui est organisée par les bergers de la Veude dans les environs de Richelieu. Donc c'est un dimanche matin, ça commence très tôt, à 6h45, et c'est une randonnée de 17 km qui se fait avec les brebis d'Émilie et Adrien.
Eh bien, merci Julie pour cet agenda qui reprend un peu corps.
Oui, en effet, on en est très content.
C'est la fin de cette émission, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, vous pouvez réécouter en podcast cette émission sur le site de Radioactive, sur le www.radioactivefm.fr. Merci également à David Marion qui était à la technique.